Bonjour chères auditrices et chers auditeurs de Marmite FM 88.4 en modulation de fréquence. Nous nous retrouvons pour la suite et fin des aventures de notre philosophe cynique Diogène. Le philosophe n'hésite pas à bouleverser certaines conventions en faisant usage de l'ironie ou en se moquant de celui qui vient à lui pour démontrer que celui qui lui parle peut être dans l'erreur ou démontrer une incohérence entre ses actes et sa pensée. Il reste malgré tout un philosophe soucieux d'aller à la rencontre d'autrui et invitant tout un chacun à montrer une existence joyeuse et frugale. On pourrait synthétiser sa démarche par cet appel. De l'audace, pensez et agissez par vous-même.
Méandrosthène a un souci. Il a toujours aimé les femmes et il se demande ce qu'il convient de faire pour ne pas retomber dans les tourments de la vie amoureuse. Tu as le désir d'amour, mais c'est formidable, mon garçon. Seulement, je te dis que le couple est une invention complexe qui ne manque jamais de faire souffrir les amants. Que d'efforts à fournir pour séduire, s'entendre. Que de négociations il faut mener pour parvenir à vivre à deux. Si la nature avait voulu que nous fussions en couple, elle nous aurait soudés par la taille. Mais alors, se met à regretter Androsthène, le chien ne peut avoir d'enfant. Erreur, s'exclame Diogène, tu en auras des milliers. Le chien donne la meilleure éducation possible à chaque enfant, fille ou garçon, et pas seulement au sien. Moi, je dis que les anciens, la cérémonien, avaient parfaitement raison. Ils mettaient tous leurs rejetons en commun sans jamais leur révéler qui était leur père ou leur mère, et sans jamais dire aux parents qui était leur fils ou leur fille. Ainsi, chacun donnait le père ou la mère de tous les enfants, et tous les enfants devenaient le fils ou la fille de tous. Imagine-toi dans une cité où chacun serait ton père, ta mère ou tes enfants. Quelle belle et grande famille! Le chien ne se contente pas d'avoir un, deux ou trois enfants, il en veut des milliers, des millions. Toi-même, je te le dis, je t'aime comme mon fils. Et chaque homme de mon âge est mon frère, chaque vieillard est mon père, chaque vieille est ma mère. Si Luna ne tenait qu'à moi, je célébrerais le grand mariage de tous les hommes et de toutes les femmes, et tous les enfants seraient mis en commun. Fort de tous ces conseils, Androsthène est résolu. Il vivra comme un chien. Après s'être entraîné à supporter le froid, la chaleur et la faim, il commence à se sentir plus libre. Chaque chose, aussi petite soit-elle, commence à lui procurer un immense plaisir. Quoi de plus heureux qu'une goutte d'eau lorsqu'on a très soif? Quoi de plus subtil qu'un fruit dans un estomac longtemps privé de nourriture? Quelques mois s'écoulent, le jeune homme oublie qu'il a eu un passé ailleurs. À Égine. Mais un jour, alors qu'il traîne sur la place du marché, il se retrouve nez à nez avec son grand frère, Philoscos. Ce dernier lui tombe dans les bras. « Oh, mon frère, tu es vivant? J'étais fou d'inquiétude. Tu ne donnes plus de nouvelles. Je t'ai cherché partout. Mais quelle mine épouvantable tu as !» En effet, les jolis habits ont été troqués contre un manteau de mendiant. Les pieds nus sont noirs de crasse, la chevelure autrefois bouclée, et parfumé est devenu une épouvantable tignasse qu'un pou seul pourrait avoir plaisir à embrasser. L'épée fabriquée par le meilleur forgeron d'Égine a été remplacée par un bâton grossièrement taillé dans une branche. « Que t'est-il arrivé, par Zeus? Tu es devenu un mendiant ?» s'exclame Philoscos. « Pas du tout, » répond Androsthène en riant. « Alors tu as été vendu comme esclave ?»« Bien au contraire, » dit Androsthène d'un ton très apaisé. « Je suis devenu l'homme le plus libre d'Athènes. » Philoscos recule, il croit que son frère est devenu fou. Androsthène refuse de revenir à Égine. Il raconte comment il est devenu un chien. Son frère aîné l'écoute attentivement. « Veux-tu que je te présente celui qui m'a libéré ?» demande Androsthène. Philoscos accepte, il se dirige vers une grande amphore, roulée en boule comme un chien dans sa niche. Diogène dort dedans. Le voilà donc ce grand philosophe, sec, sale, recroquevillé sur lui-même, et pourtant... « Qu'il a l'air tranquille, » murmure Philoscos. « J'ai bien envie de le réveiller pour m'entretenir avec lui. » Mais Androsthène le prévient. « Ne le réveille pas, tu recevras un coup de bâton. » Son maître l'a accueilli ainsi. Moi-même, j'en ai souvent été pour mes frères. Lorsque je le dérangeais pour rien, il ne fera pas d'exception pour toi. Si tu veux conserver ton crâne intact et devenir sage, regarde-le vivre. Il est comme un spectacle vivant. Imite-le. Sa philosophie est la plus simple, il te suffit de devenir toi-même. Reste au moins jusqu'à ce soir, je te le présenterai. Vous causerez ensemble. Quelques jours après, le frère aîné jette son manteau, offre sa bourse et enlève ses sandales. À son tour, il devient un chien. Platon est mort. Le soir, on donne une grande fête en l'honneur du défunt. Diogène, qui aimait tellement se chamailler avec lui, est un peu triste. Il se tient en retrait. En revanche, Androsthène et Philoscos profitent de cette occasion pour reprocher aux Athéniens de se livrer à la débauche. Soudain, ils entendent « Par Zeus, mes filles, je vous trouve enfin !» Les deux frères reconnaissent leur père. Onésicrite, Égine est là. Le vieillard n'en peut plus de joie. Il bondit comme un faon malgré son âge. « Mais que vous est-il arrivé ? » dit-il en regardant les horribles vêtements de ces deux garçons. « J'ai écouté tes conseils, » répond Androsthène. « J'ai cherché la sagesse, je suis allé à l'académie de Platon pour écouter ses cours, j'ai même vu Démosthène, mais j'ai choisi de suivre l'enseignement d'un chien. »«
Par Zeus ? » ?»«
Un chien serait devenu ton maître ?» s'étonne le père.
« Pas n'importe quel chien.
Celui dont je te parle a le corps d'un homme. »«
Le corps d'un homme ? Mais quelle femme a pu engendrer un tel monstre ? Cette femme s'appelle Philosophie. Quant au monstre, il s'appelle Diogène. »
Diogène, s'exclame le père, je n'entends parler que de lui depuis mon arrivée. Tout le monde le dit fou. Les deux jeunes gens se regardent en riant. Ils sont contents de scandaliser leur père. Maintenant, vous allez rentrer avec moi, Égine. Fini la plaisanterie. Je me suis ruiné pour que vous ayez la meilleure éducation et regardez le résultat.
Des mendiants.
Voilà ce que vous êtes devenus. Le vieillard prend ses fils par les poignets comme des garçonnets que l'on amène à la maison. Androsthène lui donne un coup de bâton. « Au meurtre !» hurle Onésicrite. « Mes fils me tuent !» Diogène, qui observait la dispute de loin, se rapproche. Il ouvre les bras. « Voyons, écoutez, votre vieux père, j'ai toujours eu envie d'aller à Égine. Il y a bien des gens à mordre là-bas. »«
Comment ?
Tu crois vraiment que je vais t'emmener ?» demande le vieillard.
« Si, Diogène, viens, alors nous accepterons de te suivre, » disent les fils.
Onésicrite s'étrangle de rage.
« Mais peut-il refuser ?»
Le marché est conclu, les chiens embarquent, le vaisseau fait voile vers la petite île, mais à peine a-t-on quitté le port d'Athènes que des pirates attaquent. L'équipage est fait prisonnier. Onésicrite pleure, supplie et demande grâce. On lui prend ses bagues, ses colliers, on déchire ses vêtements. Il crie comme si on lui arrachait les membres. « Et vous trois ?» demande le chef des pirates en désignant les chiens.
« Qu'avez-vous à donner ?»«
Tout ce qu'il faut pour faire de toi un homme, un vrai ?» répond Diogène.
« Tu rigoleras moins lorsqu'on t'aura vendu comme esclave, » rétorque le chef surpris par tant d'audace.
Direction la Crète, où se tient la grande foire aux esclaves. Onésicrite est effondré. Adieu les richesses, la nourriture, le vin et les tapis moelleux. Tandis qu'il se lamente, les chiens bavardent tranquillement, l'air de rien.
« Mais vous n'avez pas peur, » pleurniche le vieillard.
« Peur de quoi ?» demande Diogène.
« Mais voyons, d'être vendu comme esclave !»
Ah ça, ricane Diogène, je ne m'en fais pas, je ne suis le serviteur de personne, pas même des dieux. Je plains surtout celui qui se payera un chien de notre temps.
D'ailleurs, les pirates sont excédés. Dès que l'un des leurs paraît, les chiens ne peuvent s'empêcher de se moquer de lui.
Et si on les menace, ils répondent que mourir leur est égal. Alors, pour les punir, on décide de diminuer leur ration, mais ils supportent les privations riant. Ils partagent même leur nourriture avec les autres prisonniers. L'équipage ne comprend pas lorsqu'ils parviennent à survivre avec si peu. Lorsque le vaisseau débarque en Crète, les chiens s'en donnent à cœur joie. À peine sont-ils sur le quai, qu'ils se moquent de tous les clients.
Diogène crie à tue-tête. « Qui veut se payer un chien ?»
Androsthène dit à un jeune homme très coquet. « Et si tu veux un homme dans ta maison, je suis là !» Philoscos, elle, en passant. « Pour le prix d'un esclave, achète-toi un maître !»
Onésicrite ne peut s'empêcher d'admirer la liberté de ses fils. Il admet qu'aucune école n'aurait pu leur donner autant d'aplomb.
Les pirates vendent tous leurs esclaves, sauf les trois chiens. Et Onésicrite, qui est trop vieux, ils ne savent plus qu'en faire, lorsque Diogène interpelle un riche citoyen de Corinthe.
« Hé, l'aristocrate, achète-moi, je dirigerai ta maison. »
Séduit par son insolence, Xéniade, tel le nom de cet homme, décide d'acheter la petite bande. Les pirates lui font un bon prix, car ils ont hâte de se débarrasser de cette meute d'enragés. Onésicrite, conquis par la liberté qu'offre la vie du chien, pose 1000 questions à ses fils et à Diogène. Durant tout le voyage qui le mène à Corinthe, il repense à sa vie, à ses années perdues, à son amour du pouvoir et de l'argent. Il se trouve ridicule. Arrivé à bon port, il jette ses sandales à la mer. Ses fils le prennent par le cou pour l'embrasser. 10 années s'écoulent. Onésicrite marche pauvre mais libre en compagnie de ses fils. Seulement, il ne dit plus « mes fils ». Les fils ne disent plus « mon père ». Diogène, quant à lui, devient l'ami et le conseiller de Xéniade. La riche demeure devient très simple. Il n'y a plus de tapis moelleux, plus de vêtements riches brodés. Les enfants apprennent à boire de l'eau plutôt que du vin, à manger des laitues plutôt que du bœuf, et à rire plutôt qu'à comploter et à trahir. L'histoire de la maison de Xéniade fait le tour de la Grèce. Elle parvient même aux oreilles d'un certain Alexandre, alors roi de Macédoine et de toute la Grèce. Diogène, allongé sur le sol, prend un bain de soleil lorsqu'une voix l'interpelle. « Je suis Alexandre, » demande, « ce qu'un roi peut faire pour toi, mendiant. »« Tu me fais de l'ombre, » rétorque le chien en balayant l'air de la main comme s'il s'agissait d'une mouche. Et Alexandre recule. Ceux qui assistent à cette scène n'en reviennent pas. Diogène a réussi avec une parole ce qu'aucun peuple de la Grèce n'a réussi avec toute son armée. Il a fait reculer Alexandre. Le roi, de nature colérique, rétorque « Comment oses-tu ? N'as-tu pas peur de moi ? Es-tu un mauvais roi ? » demande Diogène. « Bien sûr que non, » dit Alexandre outré. « Tu es donc un bon roi, et un bon roi est un bien. » « Parfaitement. Alors pourquoi aurais-je peur d'un bien ?» Alexandre est désarçonné, mais il apprécie l'aplomb du chien. Il lui promet de lui faire parvenir une écuelle pleine d'os pour le récompenser. « C'est un cadeau digne de toi, » soupire Diogène. Le roi regarde autour de lui. Les Corinthiens ne peuvent s'empêcher de rire. Le jeune Alexandre s'avoue vaincu, il cesse de gonfler le torse et se penche. « J'ai tué des hommes pour moins que cela. Mais par Athéna, tu as de l'esprit, mon ami. » Si je n'étais pas Alexandre, j'aimerais bien être comme toi. Tandis qu'Alexandre part conquérir l'Asie à la recherche de gloire et de richesse, Diogène reste vivre à Corinthe dans la maison de son ami Xéniade. Mais loin d'y couler une paisible retraite, il pousse son entraînement jusqu'à l'extrême limite. Il décide de ne plus utiliser le feu afin de devenir un véritable chien, capable de dévorer ses aliments crus. Au début, il se contente de croquer des légumes, puis de mâcher des céréales. Voulant s'endurcir un peu plus, il se met à manger de la viande crue et encourage les autres chiens à l'imiter. Tout le monde tombe malade. Diogène s'entête un matin en observant ce que les pêcheurs ont rapporté de la mer. Il voit un poulpe qui s'entortille au fond d'un panier. Il le saisit et le croque. Diogène a des coliques inouïes et meurt. C'est ainsi que cet homme, fort comme Héraclès, chien parmi les chiens, s'est fait tuer par un poulpe à l'âge de 86 ans. Les compagnons de Diogène se demandent ce qu'il faut faire de son corps. Pour Androsthène, il faut le jeter dans la rue pour que les chiens s'en régalent. Pour Philoscos, il faut le cuisiner, le partager entre amis. En effet, Diogène disait que la viande humaine est aussi bonne qu'une autre. Il serait dommage de la gaspiller. Mais c'est Xéniade qui a le dernier mot. Avant de mourir, le chien a soupiré sa dernière volonté. Il a demandé à être enterré face contre terre. « Quelle drôle d'idée !» s'exclame Onésicrite. « Et pourquoi face contre terre ?»« Car selon lui, dit Xéniade, tout ce qui est en bas sera un jour en haut. » Nul ne sait si Xéniade a osé mettre le nez de Diogène contre le fond de la fosse. Et en l'honneur de cet homme devenu animal, en l'honneur de cet animal devenu dieu, en l'honneur de cet homme devenu homme, les citoyens ont construit un immense tombeau, en haut duquel trône superbement un chien de marbre aux aguets.
C'était la fin des aventures de notre philosophe cynique Diogène. Nous nous retrouverons pour des nouvelles escapades de notre chat philosophe la semaine prochaine à la même heure. Diogène, Diogène, je te...